Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le 14 février 2005, l'homme politique et entrepreneur sunnite Rafik Hariri était victime d'un attentat à Beyrouth. Une décennie plus tard, rien n'a changé. La vie politique libanaise semble plus que jamais dans l'impasse. La Syrie voisine pèse toujours autant sur la vie du pays, et pas seulement par ces centaines de milliers de réfugiés qui fuient la guerre civile. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orion Hebdo sur RFI.
On a senti, comment vous décrire, comme un tremblement de terre.
La déflagration a fait trembler tout Beyrouth. Mais on ignore encore qui se trouve sous les décombres.
L'ancien Premier ministre et milliardaire libanais Rafik Hariri a été tué il y a tout juste 10 ans, le 14 février 2005, par l'explosion d'une camionnette piégée sur le fond de mer de Beyrouth, alors qu'il se rendait à son domicile à bord d'un véhicule blindé. L'explosion, équivalente à celle de 2,5 tonnes de TNT, avait fait 22 autres tués et 226 blessés. Un procès pour juger plusieurs de ses auteurs présumés, tous membres du Hezbollah chiite libanais, est en cours à La Haye, au très controversé tribunal spécial pour le Liban. Une semaine d'audience est d'ailleurs prévue du 23 au 27 février prochain. Franck Mermier, bonjour.
Bonjour.
Chercheur au CNRS, ancien directeur scientifique à l'Institut français du Proche-Orient à Beyrouth, et notamment, vous y étiez lorsqu'il y a eu cet attentat contre Rafik Hariri. Quel souvenir vous avez de l'ambiance à ce moment-là, en 2005 ?
Alors, c'était une ambiance électrique. D'abord, un choc immense pour l'ensemble de la population libanaise. D'abord, par l'ampleur de l'attentat, puis aussi par la personnalité même de Rafik Hariri. Il faut pas oublier que Rafik Hariri, outre le fait qu'il était Premier ministre, était aussi le parrain de la reconstruction, alors parrain dans plusieurs sens du terme d'ailleurs, de la reconstruction du centre-ville de Beyrouth au sortir de la guerre civile en 1990. Et cette atmosphère électrique s'est aussi traduite par de grands rassemblements dès l'annonce de l'attentat, des grands rassemblements de foules de Libanais qui se sont rassemblés au centre-ville de Beyrouth, ce centre-ville qui avait été, disons, reconstruit par Hariri, donc c'était particulièrement symbolique. Et puis, ça a été aussi le point de départ d'une nouvelle phase politique pour le Liban, outre ces rassemblements, et c'est aussi cette concurrence de rassemblements entre les différents groupes politiques libanais.
Alors justement, cette compétition entre ces deux rassemblements se retrouve encore aujourd'hui. Alors disons-le, 10 ans après cet attentat, la situation politique au Liban est très instable. Les chrétiens, je le rappelle, ont fêté la Saint-Maron cette semaine, et le siège réservé au président de la République, qui est traditionnellement un chrétien maronite, est resté inoccupé. Est-ce que ces deux factions qui étaient déjà à l'œuvre il y a 10 ans sont encore à l'œuvre aujourd'hui ?
Ben, il faut savoir que le président de la République au Liban doit être chrétien maronite, pas chrétien grec-orthodoxe, mais chrétien maronite. Le président de la chambre chiite et le premier ministre sunnite. Donc il y a une répartition confessionnelle du pouvoir et des postes au Liban. Depuis février 2014, il n'y a plus de président au Liban. Il y a une vacance de pouvoir. Il faut savoir que Michel Sleiman, qui avait été élu président de la République de 2008 à 2014, avait été élu aussi à la suite d'une crise très grave en 2008. En mai 2008, notamment, des combats ont eu lieu à Beyrouth. Le Hezbollah avait pris le contrôle des quartiers ouest de la capitale. Et à l'issue de ces combats, un président, disons, de consensus, si on peut dire, avait été élu, le président Michel Sleiman, ce qui n'allait pas de soi, parce que le président Michel Sleiman était aussi le commandant en chef des forces armées. Hein, donc, ce qui est dans la construction est très difficile pour un militaire, pour un haut fonctionnaire, d'être élu président de la République. Depuis, il n'y a plus de ce consensus, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement avec un premier ministre sunnite, d'ailleurs Tamam Slam, qui gère les affaires de l'État, avec deux grands blocs dans ce gouvernement, un bloc de 8 mars, c'est-à-dire celui de l'opposition, si on peut dire, pro-syrienne, entre guillemets, c'est-à-dire du Hezbollah, du Coran patriotique libre et du parti Amal, Et puis la coalition du 14 mars avec le courant du futur, donc et dont le chef est Saad Hariri, le fils du premier ministre Rafik Hariri, les forces libanaises, Samir Jarjar, et puis entre les deux, on a quelques des ministres qui appartiennent à un groupe neutre, le groupe de Michel Sleiman, si on peut dire, et puis celui qui est affilié au Parti socialiste progressiste de Walid Jumblat, le leader druze, qui a beaucoup tergiversé depuis 2005, qui était au départ avec la coalition du 14 mars anti-syrienne, qui aujourd'hui se positionne de façon plus neutre, mais qui, dans le fond, reste de toute façon, qui affiche une opposition au régime syrien.
Alors justement, une situation politique difficile avec, on le voit encore, une présence finalement, même si elle est indirecte, mais une présence forte de la Syrie. Alors est-ce que cette guerre civile en Syrie a un impact direct sur la situation au Liban, la situation interne ?
Il y a d'abord un impact tout à fait énorme, c'est qu'il y a plus d'un million, on parle d'un million 300 000 réfugiés syriens au Liban. Donc beaucoup sont concentrés dans les camps de réfugiés de la Beka. Il y a aussi un impact, donc déjà un impact économique assez important. Alors pour certains Libanais, ils peuvent en tirer profit, mais pour l'ensemble du pays, c'est effectivement un poids assez lourd par rapport aux ressources du pays. Et puis il y a aussi un impact politique extrêmement fort. Parce que non seulement il y a la présence des réfugiés syriens, mais il y a aussi la présence de groupes militaires syriens, des incursions. On a vu notamment dans la région de Hersal, autour de la ville de Hersal, dans la Beka, des combats entre l'armée libanaise et des groupes affiliés à l'opposition armée syrienne, certains étant affiliés à Nusra ou même à Daesh. On a eu aussi l'enlèvement de militaires libanais qui ont été faits prisonniers, certains ont été décapités. Ils restent toujours entre les mains de groupes radicaux djihadistes syriens. Et puis il y a l'implication aussi du Hezbollah là au Liban, une implication militaire extrêmement forte qui certainement a contribué à sauver le régime de Bachar el-Assad en liaison avec bien sûr leurs alliés iraniens. Et finalement, on avait avant 2005 et le départ des troupes syriennes en avril 2005, l'ingérence syrienne au Liban. Aujourd'hui, on a aussi l'ingérence libanaise en Syrie, ce qui bien sûr a des répercussions très très fortes sur la scène politique libanaise.
Alors, on a parlé de la question des réfugiés syriens, plus de 1,5 million. D'ailleurs, le gouvernement vient de prendre une décision tout à fait inhabituelle, c'est que désormais, les ressortissants syriens qui vont venir au Liban devront avoir un visa. Ça, c'est une vraie nouveauté. Alors, par ailleurs, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a annoncé lundi, en début de semaine, que la livraison d'armement français offert par l'Arabie Saoudite, environ 3 milliards de dollars, à l'armée libanaise débutera au mois d'avril. Est-il possible qu'il y ait une extension du conflit syrien au Liban?
Alors, jusqu'à présent, il y a eu des extensions de ce conflit syrien. On a noté la Beka, hein, notamment des combats entre l'armée libanaise et des groupes djihadistes. Il y a aussi Tripoli qui, périodiquement, se réveille au bruit du canon, hein, entre les deux quartiers alaouites et sunnites de Jabal Morsen et Bab Tebane. Hein. Donc, c'est une répercussion directe du conflit syrien. On a aussi l'opposition de groupes radicaux sunnites djihadistes au Liban qui voient d'un très très mauvais œil l'implication du Hezbollah au Liban. Et puis, on a évidemment aussi les représailles là, directes du Hezbollah dans le secteur des fermes de Shaba après l'attaque israélienne sur ses militants, notamment Morniyeh, dans le Golan. Donc, on a effectivement des répercussions directes militaires sur le plan sécuritaire. Et puis, on a eu aussi des épisodes très graves de voitures piégées dans la banlieue sud de Beyrouth. Hein. Heureusement, depuis plusieurs mois, on n'en est plus question. Mais dans le même temps, cette répercussion de la crise syrienne provoque aussi une paralysie du pouvoir libanais du fait qu'il y a aussi au sein même de l'État, des forces de sécurité, une répartition des allégeances selon les camps du 8 mars et du 14 mars. Il faut rappeler que le 14 mars, donc avec à sa tête le Saad Hariri, réclame le désarmement du Hezbollah. C'est quand même la seule milice armée aujourd'hui avec une telle puissance et qui contrôle certains rouages de l'État, pas seulement certains contrôles rouages de l'État dans le sens où ils sont ministres, ils sont représentés au Parlement, mais aussi par le fait qu'ils sont aussi très puissants au sein des certains services de renseignement libanais. Donc on a cette présence armée, milicienne du Hezbollah qui aussi décide seul de la politique étrangère du Liban lorsqu'il souhaite répondre aux attaques israéliennes. Donc on a là effectivement une ligne de fracture extrêmement forte par rapport, qui est toujours depuis 2005, qui est toujours présente, qui est celle de l'armement du Hezbollah.
Donc 10 ans après, l'assassinat de Rafik Hariri a encore une vraie résonance aujourd'hui.
10 ans après, rien n'est réglé au Liban d'une certaine façon, puisque d'une part, les assassins courent toujours, et deuxièmement, ce qui était véritablement au cœur des manifestations après l'assassinat de Hariri, c'est-à-dire la souveraineté du Liban, n'est toujours pas réglé du fait même de la présence d'une milice au sein même de l'État libanais, et puis aussi du fait que finalement les Libanais n'ont toujours pas réussi à trouver un accord pour une répartition du pouvoir et la formation d'un gouvernement et l'élection d'un président de la République.
Merci Franck Mermier, chercheur au CNRS, ancien directeur scientifique de l'Institut français du Proche-Orient à Beyrouth, au Liban.
Orient Hebdo sur RFI.
Auteur-compositeur, Souad Massi est une passionnée de guitare qui distille ses chansons folk-rock avec délicatesse. Exemple avec ce morceau, Guirenta. Souad Massi sera en concert à Rézé, près de Nantes, le 19 mars prochain.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous prenons maintenant la direction du Caire et de Jérusalem, où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, le contrat de vente des avions chasseurs Rafale français à l'Égypte occupe une large place dans les médias arabes et surtout égyptiens.
Oui, ce sont surtout les performances du chasseur français qui sont décrites en long et en large par des médias qui sont généralement enthousiastes. Alors en Égypte surtout, on souligne son rôle d'avion de supériorité aérienne. Le long rayon d'action est mis en avant pour indiquer que l'Égypte pourra se projeter contre les menaces extérieures au lieu d'attendre qu'elles arrivent à ses portes. Les cas du Yémen et de la Libye, en plein chaos, sont évoqués. Alors pour beaucoup, il s'agit d'une gifle aux États-Unis qui ont suspendu les livraisons de F-16 à l'Égypte. Certains, quand même, ne manquent pas de regretter que plus de 5 milliards d'euros qui coûteront les Rafales et la frégate FREM n'aient pas été consacrés à la construction d'écoles et d'hôpitaux en Égypte.
Alors pas d'avion Rafale dans la presse israélienne, Michel Paul, mais des limogeages et des missions de juges et candidats à un prix littéraire.
Et oui, c'est le scandale de la semaine en Israël qui fait la une de la presse, mais qui ce week-end semble désamorcé car le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fait machine arrière. Après consultation avec le conseil juridique du gouvernement, le prix Israël est la récompense la plus élevée qui est remise dans plusieurs catégories de manière solennelle lors de la fête de l'indépendance israélienne. Netanyahou a décidé dans un premier temps de limoger plusieurs des juges du prix de littérature considérés par lui comme étant trop à gauche, une décision qui a fait boule de neige En tout cas, ce sont 15 juges et candidats qui ont aussitôt remis leur démission. Avec des réactions très dures, l'écrivain David Grossman, par exemple, affirme dans Maariv ce week-end, le Premier ministre porte atteinte à la liberté de création et de penser. Une autre personnalité du monde des lettres estime que le prix Israël a été entaché à tout jamais. Et Yediot Aharonot parle, lui, d'un véritable outrage et de l'approche cynique de Netanyahou en cette veille d'élection, car Eric, pour tous, il est évident qu'il s'agissait d'une décision électoraliste.
Ce qui nous amène tout naturellement, Michel, aux élections du 17 mars.
Dans un mois tout juste, les élections législatives, le Likoud, le parti du Premier ministre, reprend la tête des sondages, mais d'une courte tête, tout juste un siège, à retenir un autre résultat, Tzipi Livni est la candidate privilégiée au poste de chef de la diplomatie. Autre élément intéressant que l'on retrouve dans les titres de la presse, le parti nationaliste du foyer juif proclame que Netanyahou a l'intention de mettre sur pied, au lendemain des élections, une coalition en partenariat avec le centre-gauche. Le même argument est d'ailleurs avancé par le parti Colombe-Méretz.
Ajoutons, Michel, que deux candidats sont interdits d'élection.
Oui, c'est une décision de la commission électorale. Hanin Zouabi de la liste commune arabe et Baruch Marzel de Yahad, anciennement leader d'une liste raciste kahaniste, ne pourront pas se présenter aux élections. La députée arabe israélienne avait notamment affirmé que les trois assassins des adolescents israéliens enlevés en juin dernier n'étaient pas des terroristes. Et elle était aussi à bord du Marmara, le navire turc de la flottille pro-palestinienne, pris d'assaut par la marine israélienne. Alors les journaux font remarquer que la Cour suprême israélienne n'entérine pas en général ce genre de décision de la commission électorale.
À la une également de la presse du Caire, Alexandre, ces 21 Égyptiens enlevés en Libye par une milice se réclamant du groupe État islamique.
Oui, il s'agit de 21 coptes dont les photos ont été diffusées sur le net. Ils sont vêtus de la salopette orange des condamnés à mort par le groupe État islamique. Leurs ravisseurs, eux, sont vêtus de noir. Et certains journaux affirment qu'ils ont été exécutés, tandis que d'autres indiquent qu'ils sont toujours en vie. Alors, la presse précise que le président Abdel Fattah el-Sissi a ordonné à la cellule de crise qu'il a formée de mettre au point un plan pour évacuer les Égyptiens qui le souhaitent de Libye. En attendant, les parents des victimes tiennent un sit-in dans la cathédrale copte orthodoxe de Saint-Marc au Caire. Ils dénoncent l'inaction des autorités. Alors une inaction qui est aussi dénoncée par certains éditorialistes qui estiment que l'Égypte ne doit plus tourner la joue gauche quand ses citoyens sont agressés.
En tout cas, Alexandre, la guerre contre le groupe État islamique fait l'objet de nombreuses analyses dans la presse arabe.
Oui, une presse qui salue la résolution du Conseil de sécurité visant à assécher les sources de financement du groupe État islamique, mais des éditorialistes se demandent si cette résolution se traduira dans les faits. Ils soulignent que la Turquie est le premier client du pétrole extrait par l'État islamique et qui est vendu à vil prix. Des mesures seront-elles prises contre Ankara? Se demandent les journalistes. Un éditorialiste du journal Al-Haya dénonce quant à lui l'inaction de la plupart des pays arabes face au danger du terrorisme islamiste. Un terrorisme qui sert trois puissances, selon le journaliste, trois puissances régionales, la Turquie, l'Iran et Israël, qui ont chacun leur calcul.
Michel Paul, voilà que l'on reparle d'enfants palestiniens dans les prisons israéliennes.
Haaretz consacre un dossier spécial à l'intifada des enfants sous le titre « Adolescents derrière les barreaux ». Les jeunes palestiniens emprisonnés dans les geôles israéliennes ont du mal à se remettre, souligne le quotidien. Le cas de Malek El-Khatib, une jeune fille de 14 ans emprisonnée pendant 2 mois, est notamment examinée. Être détenu en Israël pour un jeune de Cisjordanie, c'est un moyen d'échapper à la dure réalité quotidienne, estime même un des auteurs de ce dossier.
Et puis l'assassinat d'une famille musulmane aux États-Unis provoque de nombreuses réactions dans la presse arabe, Alexandre.
Oui, il s'agit d'un jeune couple d'origine syrienne et la sœur de l'épouse qui ont été tués par balle dans le style exécution dans la ville de Chapel Hill en Caroline du Nord. Alors selon la police, il s'agit d'un crime qui a été motivé par une bagarre au sujet d'une place de parking, mais c'est une explication qui est loin de convaincre la communauté musulmane qui évoque évoque, elle, un crime raciste. Et c'est cette hypothèse qui est reprise par la plupart des journaux arabes qui dénoncent le silence des médias américains et occidentaux et qui parlent de deux poids et deux mesures. Quand l'assassin est musulman, c'est un terroriste, mais quand les victimes sont musulmanes, il s'agit d'un fait divers, écrivent en substance les commentateurs.
Pour conclure cette revue de presse régionale, Michel Paul, votre photo du jour ?
Eh bien, c'est la photo de Tel Aviv tout en jaune, le résultat de la tempête de sable qui sévit encore dans la région.
Merci Michel, merci Alexandre, merci également à François Porcheron qui a réalisé cette émission. Retrouvez-nous sur le site www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.
Géopolitique, le débat.